Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans Radio Lomax, l'émission du 106, chaque lundi à 18h, rediffusée les samedis à 10h sur Radio HDR, également sur Principe Actif, mais aussi disponible chaque soir de concert sur la web radio du 106, radio.le106.com. Ce soir au programme, les interviews de Monarch et de Year of No Light.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Michel Bideguin, Stéphane Miolan, bonsoir à tous les deux. Vous représentez Monarch ce soir, c'est bien ça?
En effet.
Oui.
Monarch qui volette dans l'univers du doom, du drone metal, de la lenteur, une ambiance gothique, une voix féminine d'outre-tombe, d'âme damnée ou proche de chants liturgiques ou même d'incantations mystérieuses, de Bayonne, désormais à Bordeaux, même si, bon, là, il y a matière à discuter un peu. Depuis 2002, vous existez avec quelques changements de line-up et un noyau dur que sont Émilie, Chiran et Michel. Never Forever est le dernier album répertorié. Il date déjà de 2017. On nous glisse à l'oreille qu'un nouvel album serait sur les rails. Monarch, c'est aussi une organisation militaire secrète qui apparaît dans deux films, Godzilla et Kong Skull Island. J'imagine que c'est un univers qui vous inspire un peu.
Ben à la base, le nom vient du projet Monarch. Et en fait, c'était des projets menés par la CIA qui traitaient de tout ce qui était...
Faut bien parler dans le micro.
Manipulation manipulation des esprits des militaires à base de... Je sais pas trop comment...
Donc on est aussi dans l'univers de l'organisation secrète, finalement.
Oh oui.
Il y a un truc un peu martial, ouais.
Monarch a une imagerie qui fait beaucoup référence à la sorcellerie, à la figure de la sorcière. Vous avez d'ailleurs un morceau intitulé Lilith qu'on pourrait rapprocher d'une sorte de sorcière démoniaque. On entend des incantations dans votre musique aussi. La sorcière aujourd'hui qui est de plus en plus une image du féminisme, c'est un peu comme ça que vous la voyez aussi, ou c'est plutôt l'image classique de la sorcière démoniaque, justement?
L'image classique.
Et d'où ça vient cet intérêt pour la sorcière?
Notre maître nous est apparu sous la forme d'un bouc.
Et donc, la sorcière aime les boucs.
La sorcière est la femme du bouc.
Et la femme du bouc. Il y a aussi l'imagerie du vampire?
Non.
Non?
Jamais.
Jamais? Si, il y a un petit peu quand même, non?
Non, c'est plus des références, notamment en film de Jean Rollin, qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré visuellement.
Ah, il faut nous parler des films de Jean Rollin, alors.
Vraiment?
Oui.
Ciné romantico-horreur des années 70, breton, une imagerie à une cadence très 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 lente qui convient parfaitement à notre musique, qui va dans le sens, oui, des vampires, du mysticisme, de l'occulte, je pense juste quelque chose qui nous plaisait visuellement.
On va reparler d'ailleurs un petit peu sans doute peut-être de cinéma. En tout cas, effectivement, on le disait, une musique lourde, lente, dans laquelle on s'immerge. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce style-là? Est-ce qu'il y a un processus qui s'est mis en marche? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à produire cette musique dans la lenteur comme ça?
Bonne question.
Il n'y a pas un truc de contrepoids par rapport à la musique rapide.
Mais en fait, avant de former Monarch, Chiran, Emilie et moi et d'autres personnes jouons ensemble dans des groupes de grind, power, violence, musique rapide, des morceaux courts de 30 secondes, d'une minute. Et c'était pré-internet, c'était il y a très très longtemps, il y avait encore des dinosaures. Donc on commandait nos disques sur des petits sites indépendants. Et on recevait des listes physiques sur feuille, sur papier, de disques disponibles. Et en fait, au hasard, on choisissait des disques. Et en fait, dans les lots de disques de musique rapide qu'on commandait, il y avait des groupes lents, tels que Corrupted, Burning Witch, comme ça qu'on a découvert les Melvins aussi. Et en fait, on était là, mais c'est juste un autre versant de la même chose, ce même extrême. C'est juste l'autre bout du spectre. Mais enfin, ce truc d'expérimentation dans la violence, on s'était dit, ah, peut-être qu'on peut le faire en faisant de la musique pas extrêmement rapide et décousue, mais totalement lente et déconstruite.
Comment on travaille ça sur la lenteur, à son installation de la lenteur ?
Je ne saurais vous répondre.
C'est une démarche technique.
Instinctivement. On ne se dit pas qu'on va jouer lentement. On teste, on teste, on teste. Et à un moment donné, la musique commence à prendre forme. Et c'est à peu près à ce tempo-là. Mais on ne se dit jamais, oh, on va jouer un morceau à tel BPM. C'est juste, en fait, c'est la musique en fait, qui dicte la lenteur.
Je pense qu'il y a le même truc entre la lenteur et la longueur. Et là, à ce niveau-là, en fait, il n'y a pas spécialement de choses recherchées à part que l'histoire soit bien racontée. Donc ces deux caractéristiques-là, après, c'est des variables, quoi. Généralement, par rapport à l'histoire qui doit être racontée par Monarch, on dit là, il faut que ce soit plus lent. Parce que typiquement, ce qu'on veut raconter, ça demande de s'immerger dans une forme de lenteur. Et les morceaux longs, c'est parce que l'histoire, elle évolue. Et donc, il faut parfois plus de 5 minutes pour la raconter. Et donc, du coup, on se retrouve à jouer lent et long parce que c'est le propos, en fait.
Vous racontez une seule et même histoire depuis que vous avez commencé à faire de la musique, ou est-ce que à chaque chanson, à chaque morceau, son histoire ? Est-ce que
chaque morceau, son histoire. Vraiment, il y a des tendances, oui. Des formes différentes.
Maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment un morceau, une histoire. Parce que c'est un truc un peu... vu les formats, se projeter dans un album, c'est un truc qu'on fait, fondamentalement. Mais en fait, vu les formats, on se projette quasiment dans l'exécution tout le temps dans la chanson, quoi. C'est difficile pour nous de retenir l'envie, par exemple, de pousser une chanson plus loin. Parce qu'en fait, on a envie de pousser chaque chanson, vu la forme, au maximum de l'histoire qu'on veut raconter. Donc du coup, en fait, ça fait plein d'histoires. Ça fait des albums avec plusieurs histoires, 4-5 histoires.
Et qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces histoires ? Qu'est-ce qu'elles souhaitent rapporter de façon peut-être globale ?
Il y a des fils rouges sur la voix d'Emily qui va raconter des choses au rapport à l'occulte. Après, les thématiques sont sombres, mais c'est les fils rouges, ouais. Mais il n'y a pas de... Je dirais pas que si tu les mets bout à bout, en fait, tu vas avoir les différentes parties d'une histoire globale, quoi. Mmh. Bon. À ce niveau-là, il y a la chanson qui va être plus violente et la chanson qui va être plus douce, celle qui va être plus empreinte de lumière. Voilà.
Même dans les morceaux, dans leur globalité, sur un morceau de 10-15 minutes que vous allez pouvoir développer, moi j'ai l'impression qu'on trouve plusieurs ambiances différentes. La douceur, elle peut arriver au milieu d'un morceau qui, qui peut être très violent quelques minutes plus tôt.
Après, c'est vraiment le principe de clair-obscur. Enfin, vraiment, des parties vraiment lumineuses vont souligner... Et mettre en avant des parties plus lourdes. Si on fait vraiment la même chose pendant 15 minutes, du début à la fin, il n'y a pas de dynamique. Quand même aussi cette recherche de créer des dynamiques. Complémentaires et voilà, qui vont créer un ensemble plus narratif, soit toi.
Et ça, je pense que c'est un truc justement issu de la... Quand tu as fait des groupes rapides, tu t'es concentré sur les choses qui marchent. Et quand tu veux pousser la chose plus loin, après, la question de la dynamique, ça devient un truc qui te... c'est au centre. Tout le temps. Donc en fait, tu construis tes chansons longues de la même manière que tu construis tes chansons rapides. Il ne peut pas y avoir de superflu. Donc généralement, passer un moment où ça devient chiant, tu essaies de faire évoluer. Tu essaies de faire évoluer la chose pour que l'histoire, elle soit pas chiante, quoi.
Vous êtes dans les groupes un peu lointains qui vous ont inspiré. Vous citez Black Sabbath. D'ailleurs, vous avez un album intitulé « Sabbath Noir ». Black Sabbath, ça fait partie de votre univers de base, on va dire. Ça fait partie de ce qui vous a donné envie aussi de faire de la musique, pourquoi pas ?
Oh oui, vraiment ce côté lourd, sombre. Black Sabbath, ouais, au summum. Vous vraiment, vraiment.
Vous reprenez du Kiss à l'occasion. Vous dites apprécier Weezer. C'est pas très politiquement metal correct, ça, j'ai l'impression.
On l'a jamais été.
Ouais, c'est ça, c'est ouais, ça qui ressort.
Je pense que ouais, on écoute plus Blondie que.
J'écoute plus Blondie que Pantera. Hein.
Ouais, Meshuga ou je ne sais quoi, parce qu'on n'écoute pas vraiment énormément de métal. Enfin, de métal.
Ça dépend des gens. On est, on est plusieurs personnalités dans le groupe. Il y en a un avec des cheveux très longs et une moustache. Lui, il a un background métal. Black Sabbath, je pense que ça fait partie de son ADN. Ça fait partie de l'ADN de tout le monde, quoi. Mais en fait, on amène tous des trucs différents. C'est sûr que si tu parles de Weezer, bon, bah, je pense que c'est un peu de notre faute à tous les deux. Et des Midi, par exemple. Mais la partie plus métal, c'est Sharon qui va la ramener, quoi.
On peut être pop, shoegaze et doom à la fois.
Pas shoegaze.
Mais doom et pop à la fois, en tout cas.
Oh oui.
Y a un lien avec Year of No Light, c'est le guitariste Sheeran, donc un lien particulier avec Monarch, j'imagine. C'est quoi ce lien
entre Year of No Light et Monarch?
Ouais.
De bons moments.
Bah déjà, vous êtes de la même, vous vivez au même endroit.
Oui.
Ouais, il y a des liens de ville, il y a des liens de, alors même par rapport à Bayonne, tu parlais, hein, mais il y a des connexions intra sud-ouest entre Year of No Light et le Pays Basque aussi, donc ça nous parle pas mal. Sheeran qui joue dans les deux groupes.
Mais même avant que Sheeran joue dans Year of No Light, on partageait souvent l'affiche ensemble, Monarch et Year of No Light, mais depuis nos débuts. Vraiment, on a toujours été très très proches. Voilà, musicalement, ça correspond dans le côté, oui, dans la lourdeur. Après, c'est plus humain, vraiment, une histoire d'amitié, longue amitié. On devient un vieux couple entre Year of No Light et Monarch, on se parle plus, mais on s'apprécie.
Et donc, du coup, le côté basque des choses, c'est important aussi dans cette histoire-là, dans cette histoire d'amitié, dans la musique aussi que vous produisez. Est-ce que le fait d'être basque, ça compte?
Non. Je pense que le fait d'être fier, peut-être, je sais pas. Non, en fait, non. C'est vraiment plus un accident géographique. On est tous de Bayonne. Revendiquer le côté basque, on l'a jamais fait. Certains d'entre nous sommes basques, mais on ne le revendique pas.
Après, il y a un truc, peut-être juste quand même pour ça, basque ou pas basque, je pense que c'est un principe qui peut être appliqué à pas mal de gens qui viennent de coins qui sont loin de Paris ou loin d'endroits où il se passe plein de choses tout le temps. Le Pays basque, il se passe des choses. Mais typiquement, nous, à Bayonne, bon, bah, on a fait nos groupes et nos premiers concerts dans les bars, quoi. Mmh. Et ça, c'est une école, par contre. Que ce soit Bayonne, ou que ce soit à Rennes, ou que ce soit je sais pas où, ça, c'est une super école. Alors moi, je revendique plus d'avoir fait mes premiers concerts dans les bars et d'avoir dû se démerder.
Avec du très mauvais matériel, enfin, vraiment, ouais, ça apprend tout. Jouer devant 5 pelés, c'est normal, t'es pas déçu. Tout le reste, après, c'est du bonus.
Mmh. Et surtout, après...
Quand on se fait les dents sur ça, affronter le monde, c'est simple.
C'est simple, mais puis t'as envie de défoncer, quoi.
Là aussi,
c'est le mode de guerre, quoi.
Le mode de guerre, ouais. T'as quelque chose à prouver.
Et puis, il y a aussi... je voulais parler de Nemri aussi, le batteur de Sordid, qui est un groupe de Rouen, qui joue de la batterie dans Monarch. C'est bien ça? Je ne me trompe pas?
Non. Alors...
Il a joué de la batterie,
ouais, tout à fait. David, il a assuré la batterie pendant 2 ans.
2 ans, ouais. Il a fait des tournées en Asie, aux États-Unis avec nous. Ouais. Ouais, il a vraiment assuré la batterie. Il nous a sorti du pétrin. Et on en sera toujours reconnaissant.
Donc, ce qu'on se demandait, nous aussi, c'est s'il n'y avait pas un lien mystérieux, finalement, avec la scène rouennaise.
Ah, moi, ouais, à fond, je suis sûr. Moi, je suis venu plusieurs fois. Pour d'autres groupes dans lesquels je joue, on a fait des dates avec Greffel, qui est de chez vous, qui sont de chez vous. Et moi, à chaque fois que je suis venu, j'ai ressenti un peu le même truc que je pouvais ressentir parfois quand on était, alors peut-être pas à Bayonne, mais à Bordeaux, quoi, dans ce truc un peu. Bon, ben voilà, on a en gros 100 personnes qui font une scène et moi j'aime bien ça. Je trouve ça vraiment cool. Et à Rouen, il y a toujours eu une super ambiance. Les groupes sont de qualité.
Ouais,
clairement.
Il y a une scène, ouais, il y a vraiment une scène. Les groupes, que ce soit dans la production musicale ou même visuelle, les pochettes, le packaging des disques, des groupes rouennais, on sent qu'il y a un truc. Ils sont regardants. Ils sont très, très regardants sur les détails.
la qualité.
Et en ce qui concerne le nouvel album, puisque vous travaillez en ce moment sur un nouvel album, on se dirige vers quoi ? Vous pouvez nous le dire un peu ou pas ?
Du heavy metal.
Au sens...
Plus carré. Heavy que metal.
Du heavy ?
Ouais, des métaux très lourds. pas de l'aluminium.
Il sort quand cet album ?
L'an prochain, sûrement.
L'an prochain, on attend avec impatience. Monarque, donc, sur la scène du club. On va vous laisser repartir parce qu'il est déjà 20h03. Et donc,
il faut qu'on aille faire des pompes des abdos pour avoir l'air super tanké sur scène.
Merci à tous les deux. On se retrouve sur la scène tout à l'heure, sur la scène du club. Et on va accueillir dans quelques instants les Year of No Light.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Pierre Anouilh et Jérôme Alban pour Year of No Light. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Premier album Nord en 2006, 2010 Außer Welt et puis Toxin en 2013 et puis ensuite plus d'albums. C'est ça, hein, je me trompe pas?
Ouais, avec quelques splits au milieu qui font le lien. Mais c'est vrai que c'est la plus grande période sans disque, là, je crois. Ouais.
On va en reparler. Le magazine britannique Metal Hammer cite le groupe dans son top 10 des meilleurs groupes de métal français. Ça doit être quand même, ça doit faire du bien à l'ego. Trois albums seulement, donc on le disait, un peu comme, j'ai l'impression, moi, des disques un peu fondateurs qui marquent trois visions, peut-être, que vous souhaitez donner du monde avec votre musique. J'ai lu dans une chronique sur Nightfall.fr, une belle chronique qui dit ceci. Nord a été moderne, Außer Welt est sombre et païen, et Toxin chrétien est triomphant. Aujourd'hui, vous avez dit ce qu'il y avait à dire sur disque et vous mélangez tout ça sur scène, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver?
Il y a d'autres choses qui vont arriver, puisqu'on va attaquer le mix du prochain disque très bientôt. On a enregistré cet été, on a mis le temps. On a mis le temps pour plein de raisons, pour aussi une raison, savoir si est-ce qu'on avait envie de se répéter, est-ce que ça faisait encore sens. Et ouais, on a encore des choses à dire. Je crois en tout cas, et donc on espère que début 2020, un nouveau chapitre.
Le tome 4.
Voilà, et un peu dans la... Ouais, il y aura des évolutions aussi, mais il sera biblique aussi celui-là, il sera assez biblique et psychédélique, je pense.
Vous restez sur la ligne et finalement de Toxin, quoi, un peu.
Oui et non, là ce que tu disais, les différentes manières dont étaient appréhendés nos albums, c'est effectivement, même si ce n'est pas conscient, je suis tout à fait d'accord avec la manière dont c'est décrit. Et il y a comme un espèce de cheminement. Et là, on va, pour faire simple, le Toxin a été sonné au dernier album, trop tard. Et maintenant, c'est la chute.
Ouais,
voilà.
Ouais. Du coup, on se demandait quand même si le fait de ne pas avoir de disque, c'était pas une volonté aussi, en tout cas, pas forcément l'envie de se jeter dans l'aventure d'un disque. On a beaucoup d'artistes qui donnent l'impression de faire des concerts pour vendre des disques quelquefois. Et je pense que dans ce cas-là, ils doivent se tromper un petit peu. Vous donnez plutôt l'impression du contraire, de faire des disques et de la musique pour pouvoir les jouer sur scène. Il y a d'autres groupes, hein, qui sont dans cette démarche-là. Vous êtes vraiment dans cette vision-là de ce qu'est la musique aujourd'hui?
Il y a de ça. Je pense qu'il y a aussi tout simplement un processus, qui est un processus collectif qui mêle pas mal d'énergie différente, d'états d'esprit différents. Tiens, je vois David qui a joué dans le groupe qui était juste derrière moi, qui a remplacé au pied levé Abaya Tous les Sordides.
Ah oui, il y a le groupe Rouennais qui est là.
Ouais. Une bonne connexion avec Rouen quand même.
On en a parlé un petit peu
si
avec Monarque.
Si on doit visiter la ville depuis longtemps et qu'on n'a pas réussi à trouver le temps.
Ouais, mais c'est ce qu'on se disait. On se demandait quel était le lien mystérieux avec Rouen, puisqu'on en parlait avec Monarque à l'instant. Nemri, le batteur de Sordide, qui a joué dans Monarque et a chanté pour Year of No Light, sur un concert notamment.
Oui, tout à fait. Et il a remplacé aussi Mathieu Mejmon, notre batteur, qui s'était en gros abîmé les poignets après un accident de vélo. Et qui a pris le set en 3 jours et est parti directement faire 16 dates en Europe en août. Et bon, avec qui on a vraiment un lien vraiment fort maintenant, qui est quelqu'un d'important. Et du coup, on a pu le faire. On a un morceau qui ne sera pas sur le disque sur lequel il devait chanter. Bon, après, on essaie de, par le processus et aussi la lenteur du groupe, fait qu'on est obligé de faire un choix à un moment donné pour enregistrer les morceaux. En général, on enregistre les morceaux qui vont être sur le disque. On n'a pas forcément de rebut. Par contre, ça arrive qu'on fasse des splits pour faire quand même le lien entre les disques, expérimenter des choses. Et par exemple, David, potentiellement, aurait dû chanter sur le disque. Mais bon, le morceau, finalement, on ne l'a pas gardé. Il ne s'intégrait pas dans l'album, quoi.
On va reparler des splits. On voulait juste écouter un petit extrait de Sordide. Sordide, donc en lien avec la scène bordelaise ou bayonnaise, ou entre Bayonne et Bordeaux, on va dire. D'ailleurs, ce qu'on constate donc, en regardant, et c'est ce que vous disiez, beaucoup de collaborations, de splits, plus que d'albums solo d'ailleurs, toujours une volonté d'écrire en adéquation avec le groupe avec qui vous jouez. Comment est-ce que vous appréhendez cet exercice-là? Vous modelez un petit peu, vous coltinez finalement la musique de l'autre et vous essayez de l'intégrer un peu.
Oui, enfin oui, il y a de ça. L'idée, c'est effectivement de faire une véritable collaboration avec des artistes qu'on aime bien, et à partir de là, pas forcément faire une énième répétition du Year of the Night classique. Et c'est aussi l'occasion d'explorer des nouveaux territoires ou d'aller dans certaines zones qu'on n'a pas l'habitude ou l'occasion de visiter traditionnellement. Mais donc, on travaille comme ça.
Voilà. Ça vous donne des idées pour la suite, par exemple sur le prochain album. Il y a des directions que vous avez prises qui viennent de ce que vous avez fait avec d'autres groupes, par exemple.
Je pense, après, c'est le processus est tellement long et mouvant que c'est difficile à identifier. Mais je pense que clairement, toutes les expériences qu'on a pu avoir de collaboration, d'interaction avec d'autres groupes nourrit complètement le vocabulaire du groupe. Les deux cas, ou même les trois cas qui me viennent à l'esprit, c'est vraiment le split avec Mars Red Sky. Il y avait vraiment un morceau en commun. Le split aussi avec les Bagarres Générales, dont fait partie Cyril Gachet, qui produit les disques.
On va écouter un extrait.
Avec aussi un morceau de collaboration avec Fear Falls Burning, avec Eric Wash de... j'ai perdu son nom.
Bon, on va écouter Bagarre.
Ça faisait longtemps.
On écoute Bagarre. C'est le split donc avec Bagarre Générale, avec des cuivres, des trombones aussi dans ce morceau. Et oui. ça vous donne des idées par exemple?
Oui, sur Auserveldt et Tocsin, il y a des cuivres qui sont joués notamment par Cyril. Et je crois qu'aussi Gabriel Larald, qui fait partie de Bagarre Générale, jouait du tuba, si je me rappelle bien. Et il y a un morceau, notamment le morceau Désolation, qui s'est retrouvé sur un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Jessica Forever. Et ce morceau, il y a effectivement des trombones qui sont joués par Cyril Gachet.
Et puisqu'on parle de films, vous avez produit et joué en live des bandes originales de films. Plutôt en 2010, assez bizarrement, vous nous expliquerez peut-être pourquoi. Il y en a un également en 2012. Comment ça arrive, ces histoires de ciné-concerts, et pourquoi notamment en 2010 alors?
Je crois que c'était simplement, on a eu la proposition, c'était dans les tuyaux. Nous, c'est le cinéma, c'est quelque chose qu'on aime. Et puis Mathieu, qui est notre batteur, lui, il est cinéaste, il est réalisateur, enfin scénariste, c'est son métier. Alors, on a toujours voulu faire ça et on a eu l'occasion, on a proposé Dreyer. Au début, on voulait faire le Jeanne d'Arc de Dreyer. Et puis finalement, on est tombé sur le vampire. Mmh. Et même si paradoxalement, on se sentait un peu merdeux de faire de la musique sur un chef-d'œuvre pareil. Mais ça a été une expérience aussi où on s'est vraiment effacé. L'idée, c'était vraiment de se mettre au service du film, de créer une espèce de brume qui accompagne le déroulé du film. Et puis au début, ça devait être un one shot. On va le faire une fois et puis on l'a refait un peu partout, que ça soit en Estonie, que ça soit en Roumanie. Et ça a été une expérience. Pour moi, je parle à titre personnel, le travail qu'on a fait sur Vampire, c'est un des 10 dont je suis le plus fier. Ou dans lequel c'est vraiment que. Alors, on l'a pas refait. Est-ce qu'on va le refaire? Je sais pas. C'est pas forcément à l'ordre du jour maintenant, mais c'était une expérience qui était super. Ouais.
Mais parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image, justement, elle peut provoquer des sentiments que vous arrivez à retraduire avec la musique, et c'est ça qui fait que ça a donné ce que ça a donné.
Oui, mais il y a plusieurs processus dans la création musicale. Ça peut être quelque chose de très cérébral, où vraiment c'est un aller-retour entre technique et instinct. Et cette espèce de médium assez abstrait, en fait. Mais ça peut être aussi ce que les images sollicitent, ça peut être aussi ce que l'expérience du quotidien sollicite aussi, ça peut être aussi l'amour des formes abstraites. Donc c'est, mais effectivement, le vampire, ce film de Carl Theodor Dreyer a provoqué quelque chose, et je pense que le disque qui en a résulté est une sorte de quatrième album en fait.
Oui. C'est. Et d'ailleurs, sur Nord, vous avez de nombreux titres en français qui ressemblent à des titres de films, je trouve. L'angoisse du veilleur de nuit d'autoroute, les soirs d'alarme à accident, Tu as fait de moi un homme meilleur, Les mains de l'empereur. C'est vraiment une imagerie presque, une utilisation des mots très en rapport avec le cinéma, non?
Oui, même si je pense que l'inspiration première, là, c'est peut-être plus littérature.
Ouais,
vraiment, c'est plus ça. Mais c'est vrai que dans le processus créatif, on s'inspire aussi bien de la littérature. Enfin, certains auteurs sont vraiment une matrice.
Quels sont ces auteurs?
Ouais, je parle pour moi, hein, mais que ce soit Léon Blois, ça peut être du Borges, ça peut être. Moi, j'aime bien tous les décadents fin 19e aussi, Villiers de l'Île Adam. Ça aurait pu être aussi du Dantec il y a quelques années. William Burroughs aussi.
Burroughs, ouais,
tous ces, voilà, tous ces auteurs-là.
Burroughs, il y a McCork, McCarthy aussi.
La littérature post-exotique aussi d'Antoine Volodine.
Des choses très un peu surréalistes, ouais, un peu cyberpunk,
c'est
un peu
ça. Et puis toujours dans l'entre-deux, une espèce d'espace entre la vie et la mort, le réel et la fiction, voilà, cette espèce d'interzone pour reprendre une expression à Burroughs, quoi. Mais on aime vraiment ça, ouais.
Et puis il y a aussi l'art contemporain, ça vous fait pas peur puisque vous avez travaillé sur une vidéo d'Yves Klein. Yves Klein, c'est le fameux producteur du Bleu Klein. Comment on se retrouve à bosser avec cet artiste-là?
C'est plutôt
sur la vidéo vous avez travaillé, une vidéo d'Yves Klein.
Alors en fait le c'est sur la symphonie monotone d'Yves Klein qui en fait a été un peu retrouvé. C'est Yves Klein qui est très lié à la scène niçoise. Des arts plastiques. Et en fait, on avait quelques contacts avec la Villa Arson, notamment des profs de la Villa Arson et Christian Vialard. Et Christian Vialard.
La Villa Arson, qui est une école de beaux-arts, école d'art.
C'est la deuxième école d'art en France après les Beaux-Arts de Paris. D'accord. Et c'est aussi un centre d'art assez exceptionnel. C'est aussi un bâtiment brutaliste qui est une exception, enfin, qui est quelque chose d'assez incroyable.
Allez voir à Nice.
Sur les hauteurs de Nice. Le centre d'art est génial. Les commissaires sont toujours brillants. Et en fait, Yves Klein, c'est simplement. C'est un bourdon, en fait, sa symphonie. Et il y avait une exposition sur, disons, les arts sonores dans la scène des arts plastiques du Sud-Est. Et Christian Vialard, qui est un des profs de la Villa Arson, qui est un artiste assez reconnu, nous a demandé de participer à cette réinterprétation de la symphonie monotone, qui des fois est jouée par des ensembles assez prestigieux de musique contemporaine, mais quelquefois aussi par des punks. Et là, en l'occurrence, sur ce projet, il y avait aussi des gens de Stereolab, il y avait pas mal de gens d'horizons différents.
Et ça aussi, ça a ouvert des perspectives ou pas?
Oui.
Ouais, et puis c'était vraiment chouette à faire, à la fois amusant et intéressant. Et oui, on est toujours preneur de ce genre de choses. On cherche pas nécessairement à avoir cet affichage un peu arty qu'on revendique pas plus que ça.
Hein. Ouais.
Mais l'occasion faisait que c'était intéressant aussi par rapport au drone, à la répétition, etc. Mmh. C'est des choses qui font sens. Et c'était marrant à faire. Ouais, ouais.
Bon, mais merci à tous les deux d'être venus répondre à ces quelques questions. Year of No Light, donc tout à l'heure sur la scène du 106. Et donc l'album, un prochain album qui va arriver quand? Alors
il est fait, bon. Ça c'est sûr. Il sera mixé courant décembre. Maintenant, après, le but c'est de le sortir le plus tôt possible, mais il est fait. C'était pas évident. On a fini en jamais voir le bout parce que ça a plein de galères, mais il est là et je crois qu'il est pas mal.
C'était quoi les galères? Il y a eu des...
Ouais, les galères, c'est Jérôme qui a une tendinite.
L'année dernière. Ouais, heureusement, je pense qu'on a reculé l'enregistrement parce que finalement, l'enregistrement est plus réussi que ce que ça aurait pu être si on l'avait enregistré l'année dernière.
C'est ça, ouais.
C'est simplement, on a la quarantaine aussi, donc on a... Des soucis, des priorités, mais je crois que le groupe est toujours quand même là, sous-jacent. Il y a beaucoup de production, en fait, quand même, mine de rien. Mais il y a aussi, peut-être, des fois, un manque de méthodologie.
Oui, c'est un peu le bordel, et puis après, perdre son boulot, en reprendre un autre. Enfin, la vie de tous les jours, quoi.
J'avais cru... Ah oui, c'est ça. J'ai lu qu'au départ, d'ailleurs, Year of No Light, c'était pas une priorité au tout départ du groupe.
Oui.
Comment est-ce que le groupe et sa musique se sont imposés, finalement,
parce que
comme une priorité?
Parce qu'à un moment,
parce qu'il a survécu à tous les autres groupes.
C'est ça, et je pense que la qualité... des échanges fait qu'au bout d'un moment il est évident que finalement ça sera ce projet et pas un autre, quoi.
Oui, même si oui c'est vrai, c'est comme ça, ça s'est fait naturellement, mais c'est vrai que c'est un peu un bébé prématuré, enfin, ou sous perf, quoi, qui a toujours été mis de côté. Bon, c'était comme ça, et puis finalement, les lead projects ou les projets principaux sont tous à peu près morts.
Oui.
Et nous, on est encore
bien
là.
Mort.
Voilà. Bon, tant mieux pour nous. Year of No Light, merci à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Et sur la scène du 106 après Monarch.
Radio Lomax, c'est fini pour aujourd'hui. Sur ces douces notes, je vais vous annoncer les concerts du 106 cette semaine. Mercredi 4 décembre, concert de Madeleine Pérou. Jeudi 5 décembre, concert de Philippe Catherine avec Eveno. Malheureusement, concert complet. Vendredi 6 décembre, The Avener avec La Féline, c'est également complet. Et samedi 7 décembre, Vanessa Paradis avec Vidéo Club. Et là aussi, c'est complet. Mais vous pouvez retrouver les interviews en direct chaque soir de concert sur la web radio du 106, radio.le106.tv. Et pour Radio Lomax, rendez-vous la semaine prochaine.